Tchatch, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Grande Tchatch, le ravi, Radio Grenouille, le mensuel le ravi. C'est tous les premiers vendredis du mois dans tous les kiosques et l'émission La Grande Tchatch, c'est tous les quatrièmes samedis du mois sur les 3-8 La Grenouille et le ravi. C'est également un site internet www.leravi.org. Alors avec nous pour cette Grande Tchatch, l'ancien secrétaire général de l'Elysée durant 9 ans sous François Mitterrand et ministre Jean-Louis Bianco, également ancien bras droit de Ségolène Royal dans sa campagne de 2007. Bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, vous êtes député et président du Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. Jean-Louis Bianco, une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je nommerais bien sûr Mickey, premier ministre de mon gouvernement, si j'étais président. Vous n'êtes pas sur Nostalgie, mais sur Grenouille. Notre invité ne s'appelle pas Gérard Lenormand, mais Jean-Louis Bianco. Vous n'êtes pas chanteur, mais venez de publier « Si j'étais président ». Vous ne rêvez pas de nommer Mickey premier ministre, il faut dire que Mickey est déjà président, mais enfin, on ne divague pas. Jean-Louis Bianco, bande de petits ignorants, c'est quelqu'un. À 38 ans, François Mitterrand vous nomme secrétaire général de l'Élysée, un homme de l'ombre qui pèse presque autant qu'un premier ministre. Vous êtes encore le plus jeune à avoir été désigné à ce poste, et le plus endurant aussi, 9 années de service. Toujours facétieux, Mitterrand vous choisit alors que vous n'avez même pas votre carte au Parti Socialiste. Vous attendez d'ailleurs vos 52 ans pour adhérer à la glorieuse branche française de l'Internationale Socialiste. D'origine italienne, petit-fils d'immigrés, vous ne débutez pas dans la vie sans papiers ni ressources. Né à Neuilly, vous étudiez au prestigieux lycée de Janson de Sailly à Paris aux côtés d'un certain Jacques Attali, le monsieur qui rêve de prescrire à la France une cure d'austérité. Sciences Po Paris, l'ENA, le Conseil d'État, parcours brillant, qui vous mène donc dans les hautes sphères de l'État et vous propulse sous Bérégovoy, ministre des Affaires Sociales puis de l'Équipement. Toujours sans être élu. Votre première candidature d'ailleurs à une cantonale du côté de Fort-Calquier se solde par une défaite. Mais vous récidivez très vite dans les Alpes de Haute-Provence, votre département d'adoption. Et toujours avec succès cette fois, vous êtes député depuis 1997, président du Conseil Général depuis 12 ans, vous avez été aussi maire de Digne et vous avez siégé au Conseil Régional. Sur la scène nationale, vous restez longtemps discret. Lionel Jospin, qui prend ses distances avec l'héritage Mitterrand, ne vous appelle pas au gouvernement. Votre grand retour, c'est en 2006 aux côtés de Ségolène Royal. Vous dirigez sa campagne. On évoque votre nom comme futur Premier ministre. Elle n'est pas élue. Et puis voilà, pourtant encore fidèle à Ségolène, vous publiez « Si j'étais président ». S'agit-il du roman de science-fiction que vous rêvez depuis toujours d'écrire ? Ou bien d'un élément de plus à verser à la théorie de Luc Moulet sur l'existence d'une terre de la folie basalpine dont Digne serait la capitale? Je ne me prononce pas. Un seul constat, vous êtes moins démagogue que Gérard Lenormand. La preuve, vous promettez même aux Français du sang et des larmes.
Jean-Louis Bianco, un commentaire à ce portrait?
Ah, je l'ai trouvé bien enlevé et très très juste. Simplement, moi je ne me vois pas dans mon histoire. D'abord comme quelqu'un qui a fait les hautes études, je vois comme quelqu'un qui a toujours été sur le terrain. Mon premier militantisme, ça a commencé spontanément au moment de l'envahissement de la Hongrie par l'Union soviétique. J'ai fait mes premiers tracts, j'avais 12 ans.
Sarkozy vous doit beaucoup dans ce cas-là.
Oui, Sarkozy me doit beaucoup. Ensuite, j'ai travaillé dans les groupes d'action municipale, dans des actions locales. J'ai travaillé pendant 2 ans pour un syndicat intercommunal. Donc mon identité à moi, elle est plutôt du militantisme de terrain que simplement les grandes écoles.
D'ailleurs, Michel Guéraud l'a rappelé dans le portrait, vous êtes de Neuilly. Qu'est-ce qui vous a rapproché des Alpes-de-Haute-Provence?
Ce qui m'a rapproché des Alpes-de-Haute-Provence, c'est qu'il y a une trentaine d'années, avec ma femme, c'est un choix personnel d'abord. On s'est dit, on voit à peu près bien comment sont les gens autour de nous, comment ils vont tourner à 30, à 40, à 50, à 60, et on a envie de faire un pas de côté. Et donc, on a d'abord pensé qu'on allait aller à l'étranger. Puis on s'est dit, mais il y a peut-être des tas de Bocaux en France. Et on a bougé pendant nos vacances, et on a eu le coup de foudre pour les Alpes-de-Haute-Provence. Alors, on est venu à toutes les saisons, parce que parfois, c'est dur en hiver. Et on a toujours eu le coup de foudre. Donc on s'est installé là. Moi, j'y ai travaillé pendant 2 ans. J'étais en train de, pour un syndicat intercommunal, j'étais en train de réfléchir à une installation professionnelle définitive. Et puis, il y a eu mai 81 et Jacques Attali m'a appelé auprès de François Mitterrand.
Michel Guéraud.
Alors, on revient à ce livre. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc, c'est un coup de folie, là, Luc Moulet. Vous voulez vraiment être président de la République?
Le titre dit ce que je veux. Qu'est-ce que je ferais si j'étais président? c'est pas un coup de folie, c'est quelque chose qui a mûri en moi depuis un ou deux ans, pour une raison simple. Le rejet de Nicolas Sarkozy est évident. C'est pas pour autant que la victoire est acquise en 2012, mais surtout, pourquoi je fais ce livre ? Parce que ma crainte, c'est qu'on reste dans des choses sympathiques, le Parti Socialiste va mieux, il y a une volonté d'unité, il y a un travail qui est fait, mais pour l'instant, les Français ne sont absolument pas convaincus que la gauche et le Parti Socialiste feraient mieux que Nicolas Sarkozy. Et donc, si j'étais président, qu'est-ce que je ferais pour que les gens aient le sentiment que vraiment ça change et qu'il y a vraiment autre chose ?
Alors, excusez-moi, vous parlez d'unité, mais vous sortez ce livre au moment de l'université d'été du Parti Socialiste, au moment où justement le PS affiche enfin un visage, alors peut-être un petit peu fictif, d'unité, en vous positionnant comme ça dans la candidature à la présidence. Est-ce que vous ne rajoutez pas un peu de confusion
Vous avez une conception stalinienne de l'unité. Si l'unité, c'est de voir qu'un seul chef et d'obéir aux ordres du chef, ce n'est pas ma conception. L'unité, c'est de construire quelque chose sur des idées et pas seulement sur l'adhésion à une personne.
Ben justement, vous qui êtes plutôt quelqu'un de discret, on va dire, puisque vous n'êtes pas un homme d'éclat, comment il a été perçu votre livre ?
Alors, de manière très variable, il a d'abord surpris. Certains se sont dit, comme vous, y compris au Parti Socialiste, mais qu'est-ce qui lui prend ? D'autres ont pensé que j'avais attrapé la grosse tête. C'était d'abord la surprise. Et ensuite l'intérêt, parce qu'on s'est dit, tiens, c'est quand même curieux qu'un type comme Bianco sorte quelque chose comme ça. Donc ça mérite peut-être qu'on parle avec lui, qu'on l'écoute et qu'on lise le livre. Et actuellement, bon, il n'est pas sorti depuis très longtemps, ça fait un mois et demi. Ce qui me frappe le plus, c'est que dans des réunions, parce que je discute, hein, je ne suis pas au bout des réponses qu'il faut qu'on apporte, dans des salons du livre ou des trucs de ce genre-là, je vois des gens extrêmement divers. Pas forcément engagés politiquement, pas forcément de gauche. Et j'ai l'impression, j'espère que ça va se confirmer, qu'il y a des gens qui me disent, enfin j'ai pas l'impression, il y en a qui me disent, j'espère que c'est assez nombreux, finalement ce que vous dites ça m'intéresse, j'ai envie de lire votre livre, j'ai envie d'en discuter, j'ai envie de croire qu'il y a peut-être un espoir possible, et si ça marche comme ça, c'est formidable.
Avant d'arriver au contenu de ce fameux livre, est-ce qu'il fait partie du livre de chevet de Martine Aubry, non ?
Je sais pas, elle me l'a pas dit, mais j'étais avant-hier à Lille, pour une séance de dédicace, et elle n'est pas venue, mais elle m'a mis un mot gentil et sympathique.
Michel Guéraud ?
Surpris, on l'a été aussi, parce que pour nous, Jean-Luc Bianco, c'était le dernier des fidèles de Ségolène Royal. Et, est-ce que ça veut dire qu'il y a, comme ça, un petit peu un pas de côté
d'émancipation ?
Il y a ma liberté, pour reprendre une formule qui a eu du succès, elle c'est elle, moi c'est moi, mais ça ne veut pas dire que je m'écarte d'elle, ça ne veut pas dire que je ne la considère pas comme une meilleure chance que d'autres, sans doute pour nous. Simplement, je pense que moi, avec mon histoire, ma personnalité, j'ai quelque chose à apporter maintenant. Mais ce n'est pas contre Martine Aubry ou contre Ségolène Royal, c'est qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui.
Ségolène Royal reste pour vous la meilleure candidate ?
Sans aucun doute. Mais je ne sais pas si elle sera candidate. Et comme nous avons adopté un calendrier stupide qui consiste à faire des primaires au mois d'octobre, ce qui laisse le temps de se déchirer, ce qui laisse le temps d'être dans le flou, utilisons ces mois au moins pour avoir un vrai débat de fond et pas seulement rester à des généralités sympathiques.
Alors vous souhaitez que le PS gagne 2012 sur un programme, je vous cite, crédible et pas des promesses intenables. Il vous semble que c'est le cas actuellement ? Il y a les promesses que font...
Il y a un risque. On accumule des textes dans le rituel socialiste qu'on appelle des conventions, qui donnent lieu à un travail important avec des experts, des commissions, avec les militants qui s'expriment, qui présentent des amendements. Ce travail est plutôt de bonne qualité, mais quand je me demande, et quand on me demande autour de moi, mais au fond, c'est quoi les trois ou quatre grandes idées, les trois ou quatre grands changements qu'on peut attendre du PS, je considère que pour l'instant, on est dans le vague, et étant dans le vague, en tout cas perçu comme étant dans le vague, il y a le risque qu'après, on fasse l'exercice classique d'un programme, de A à Z, tout ce qu'il faut dire pour toutes les catégories. Alors, mes camarades sont bien conscients de ça, mais si on ne met pas un peu, je dirais, les pieds sur la table, je crains qu'on finisse par arriver à un catalogue.
Vous dites, c'est en début de votre livre, et vous concluez là-dessus aussi, vous parlez, donc on le disait, de sang et de larmes. Enfin, c'est quelque chose qui est assez effrayant, c'est pas très mobilisateur. Ça,
est-ce que ça m'a vraiment... dit, si vraiment tu veux être président, c'est pas la meilleure manière de démarrer. Ça a complètement surpris, ça a choqué, mais c'est pas une formule que j'ai inventée comme ça. Ça fait plus d'un an que je l'emploie dans des réunions, et je me suis rendu compte que ça frappait les gens. Et je dirais, c'est même le contraire. Si on veut être cru, quand on dit qu'on peut faire quelque chose pour les jeunes, pour le pouvoir d'achat, pour que l'industrie française ne meure pas complètement, Alors on vous écoute si vous avez commencé par dire que ce sera extraordinairement dur. On se dit, s'il est réaliste à ce point-là, ce qu'il raconte après, ça vaut peut-être la peine d'écouter. Donc moi, je crois que c'est le contraire. C'est en disant cela qu'on a une chance d'être écouté pendant la campagne.
Est-ce que ça veut dire, comme Jacques Attali, on en parlait tout à l'heure, vous voulez vous annoncer la nécessité d'une cure d'amaigrissement d'une...
Alors, j'ai pas encore lu son texte. J'ai vu vaguement ce qui était dit dans les journaux. Dans la précédente commission Attali aussi, il y avait des choses avec lesquelles j'étais en accord, des choses avec lesquelles j'étais en profond désaccord. Donc, il faut que je regarde de plus près. Mais la clé pour moi, c'est pas une cure d'amaigrissement. Bien sûr qu'on a un problème de dette qui est grave, bien sûr qu'on a un problème de déficit qui est grave, mais la clé, c'est la démocratie comme méthode de changement, ce que j'aurais appelé la démocratie jusqu'au bout. La clé, c'est de redonner espoir aux gens, de les mettre en mouvement, de libérer les énergies et les initiatives. La clé, c'est la manière de vivre ensemble. C'est pas une opération comptable, même si elle est nécessaire.
Non, alors, pour rappel aux auditeurs, ce qu'a dit M. Attali, en gros, hein, c'est geler les points d'indice pour les fonctionnaires, prolonger et élargir la règle de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite aux collectivités locales et à la sécurité sociale, des remboursements des médicaments, vous en voulez encore ? Jacques Attali, c'est toujours quelqu'un de gauche pour vous ? Vous avez été dans le même lycée que lui, a rappelé Michel Biraud tout à l'heure ?
Je crois qu'il est profondément de gauche, mais avec ce qu'il a dit là, je suis évidemment en désaccord parce que ça consiste à une cure, on peut dire, d'amaigrissement, en réalité d'austérité. Par exemple, sur les fonctionnaires, les causes du déficit de la France, c'est l'État, c'est le gouvernement. Les causes de la dette, c'est l'État, c'est le gouvernement, c'est pas les collectivités locales. Donc on fait supporter aux communes, aux départements, aux régions la responsabilité de l'État. Mais au-delà de ça, l'État qui se gargarise de « on remplace pas un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite ». Le résultat, c'est que on est dans des situations très difficiles dans l'éducation, très difficiles dans la santé. Et si je me place d'un strict point de vue comptable comme il faut, ça ne rapporte que 4 milliards d'euros. Donc on met en rideau les services publics pour ne gagner que 4 milliards d'euros. Donc ce n'est pas en continuant et en aggravant l'austérité qu'on aura une qualité de service suffisante et en plus ça n'économisera pas beaucoup d'argent.
Alors on reviendra d'ailleurs sur le problème de la RGPP qui vous donne la migraine là-haut dans les Alpes-de-Haute-Provence.
Plus que la migraine, oui.
Michel Guéraud.
On parle du fond, il y a aussi une question de forme sur laquelle vous mettez l'accent, c'est cette histoire de primaire. Vous parliez de, vous trouvez qu'elles sont trop tardives.
Oui.
Et vous dites aussi dans le livre, c'était une erreur d'avoir un projet avant de choisir un candidat et nous recommençons.
Ben oui, c'est ce qui s'est passé la dernière fois. Il y a eu un projet qui était pas mal, mais qui avait quand même quelques défauts. Et puis la candidate, Ségolène Royal, a été choisie par des primaires internes d'ailleurs. C'est-à-dire que seuls les adhérents et les militants ont voté, à la surprise générale. Elle a gagné largement, ce qui, par parenthèse, prouve qu'elle n'est pas aussi nulle que certains le croient. Parce que pour gagner des face-à-face avec Strauss-Kahn ou Fabius, il ne faut quand même pas être trop mauvais. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bien sûr qu'un travail collectif. Moi, je fais partie d'un parti avec des idées de gauche. Je ne pense pas qu'on va avoir un chef ou une chef providentielle. Mais si on fait quelque chose de trop bouclé, de trop ficelé, alors le candidat ou la candidate aura du mal à imprimer sa marque et on lui dira en permanence que nous, on a eu pendant la campagne avec Ségolène Royal. Le Parti Socialiste, dans sa grande sagesse et à l'unanimité, avait dit « les 35 heures, c'est formidable, je crois que c'est positif. Et il faudra l'imposer par la loi, même quand dans les petites entreprises, les gens n'auront pas négocié. » Ce qui est, à mon avis, une stupidité. Par loyauté à l'égard du parti, on a traîné ce machin jusqu'au jour où Ségolène Royal a dit « si on n'arrive pas à négocier, je ne le garderai pas. » Donc, il faut qu'on ait, encore une fois, je me répète, quelques axes forts qui doivent être partagés par tous, portés par tous, débattus par tous, et puis que sur 4, 5, 6 grandes idées, celui ou celle qui sera notre candidat impose sa marque, mais pas sur un catalogue, parce qu'à ce moment-là, on va pointer, on va dire « Ah, t'appartenais à la proposition numéro 35, ah, pourquoi sur la proposition numéro 36, tu es en désaccord ?»
Enfin, je rappelle quand même que le catalogue, il est voté par les militants, c'est la base. Enfin,
bien sûr, mais les militants...
Vous qui prenez la démocratie participative, c'est
quand
même...
Les militants, ils votent ce que le centre leur donne à voter, et on a un fonctionnement qui ne va pas au niveau du Parti Socialiste. On est plutôt plus démocratique que beaucoup d'autres partis, mais n'empêche que qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Les dernières conventions sur l'international, etc., il y a eu 30% de votants. Pourquoi ? Parce qu'il y a un très bon travail qui est fait au sommet, et la base a une influence limitée. Donc là aussi, il faudra remettre la pyramide à l'endroit, il faudra que l'initiative des textes vienne des militants. Pour l'instant, ils travaillent sur des textes qu'on leur a proposés.
Alors prenons un exemple d'actualité. Le Parti Socialiste parle à peu près d'une seule voix concernant les retraites et la question du retour aux 60 ans comme âge légal si vous
êtes au pouvoir. Et aux 65 ans pour la retraite.
Voilà, exactement. Il se trouve qu'un candidat potentiel du Parti Socialiste, Dominique Strauss-Kahn, s'exprime peu sur le sujet et s'exprimait autrefois en disant que lui, il ne voyait pas malaise à changer cet âge de la retraite. Est-ce que ça veut dire que s'il est choisi candidat, il faudra que le PS s'aligne sur la position de ce candidat-là, par exemple ?
Je renverserai les choses. Pour qu'il soit choisi candidat, il faut qu'il soit clair sur ce point, sachant que je ne fais pas partie
de
ceux...
Donc le projet s'impose au candidat.
c'est, en tout cas, moi, je voterai pour un candidat qui dira « Je rétablirai la retraite à 60 ans ». Si Strauss-Kahn est le meilleur et s'il dit ça, je peux voter pour lui. Mais tant qu'il est dans l'ambiguïté, je ne voterai pas pour lui.
Et ça, vous ne le pensez pas que ça soit le meilleur? Vous dites le FMI, c'est une étiquette un peu lourde.
Le FMI, je pense que ça va être lourd à porter pour lui. En partie, les gens sont admiratifs parce qu'il est aux manettes. Et d'autre part, parfois de manière extrêmement injuste, chaque fois que le FMI prend une décision d'austérité, de ce qu'il en prend, on dit c'est la faute à Strauss-Kahn. Il y a eu un rapport du FMI d'experts qui dit qu'il faut allonger la période de travail, donc il faut retarder l'âge de départ à la retraite, on dit c'est Strauss-Kahn. Il ne faut pas exagérer. La seule chose qu'il a dit, c'est que 60 ans, 62 ans, ce n'est pas un tabou. Bon, ce n'est pas un tabou, mais moi je veux préserver la liberté pour les hommes et les femmes qui le veulent et qui sont usés de partir à 60 ans.
C'est pas une manière aussi de dire demain on rase gratis, votez pour nous et on ramène la loi comme elle était ?
Non, je suis critique, vous l'avez rappelé, vis-à-vis de mon parti, mais je suis très à l'aise avec la position qui a été adoptée à la quasi-unanimité. Alors, on l'a mal expliqué, on l'a mal vendu, c'est évidemment de notre faute, mais on a un plan qui est financé, qui fait porter l'effort pour plus de la moitié sur les revenus du capital, sur la taxation des revenus du capital et des profits, qui ne fait pas porter l'effort que sur les salariés. Et avec ce plan-là, on n'a pas besoin, comptablement, de bouger l'âge de 60 à 62 ans, ni de 65 à 67 ans. Mais on garde 60 ans et 65 ans parce que ça nous paraît une mesure de justice.
Donc cette loi-là survivra aux primaires, quel que soit le candidat qui sera choisi ?
Moi, je ne crois pas que le candidat qui soit choisi puisse aller contre une position qui a été quasi unanime du Bureau national, qui en plus fait l'objet précisément du mouvement social aujourd'hui. Je crois que ce serait inacceptable et qu'il ou elle ne serait pas désigné comme candidat par les primaires.
Michel Huron.
Vous êtes dur en ce moment, mais productif d'ailleurs. Vous venez de publier à la Fondation Jean Jaurès, on a des bonnes lectures,
bravo.
Un opuscule sur la démocratie jusqu'au bout. Et alors vous dites que le PS ne possède pas encore de projet novateur et crédible adapté à la réalité du monde actuel. C'est dur ça. Et pourtant vous êtes secrétaire de la Commission nationale du projet socialiste, si je ne me trompe pas.
Non, j'ai
vous
été,
l'avez été.
J'ai été la...
Il faut qu'il vous
renomme donc. J'ai été la plume. J'ai été celui qui faisait les notes et qui enregistrait les points d'accord.
D'accord.
Donc vraiment secrétaire au sens propre du terme. Ce que je mets dans Jean Jaurès, si vous voulez, c'est des précisions par rapport au livre. Et le titre, La démocratie jusqu'au bout, c'est une méthode de changement. Ce n'est pas seulement une exigence morale, humaine, politique. Alors c'est vrai, je crois qu'aujourd'hui, à la fois, il y a un travail qui est fait, il y a des textes qui sont plutôt bien, qui sont plutôt pas mal, dans lesquels je me sens à l'aise, qui ont d'ailleurs été adoptés à une très grande majorité. Mais en même temps, tout ça ne fait pas un projet. Tout ça ne fait pas un projet suffisamment novateur et crédible parce qu'il y a des choses d'une innovation variable et pas crédible parce que les gens ne savent pas ce qu'il y a dedans pour commencer et ne croient pas qu'on le fera.
Alors, parmi les propositions novatrices dont vous faites état dans votre livre, vous souhaitez par exemple que la loi nationale puisse être adaptée selon les réalités locales. Alors, en gros, ça veut dire quoi ça, Jean-Louis Bianco ? Ça veut dire que, par exemple, dans le sud, il fait très chaud, donc en scooter, on ne met pas de casque et pas de PV. Ça, c'est adapté à la réalité locale.
Oui, enfin,
je caricature un peu.
Non, j'ai un exemple plus précis en tête. Il y a une loi sur l'eau qui, dans son principe, est plutôt pas mal pour protéger les cours d'eau, pour pouvoir gérer l'eau et la ressource en poisson qui est dedans. Sauf que la Durance ou la Bléone, ça n'a strictement rien à voir avec la Seine, le Rhône ou le Rhin. Et quand on nous interdit, par exemple, de prélever des graviers pour pouvoir ensuite faire des routes à partir de la Bléone, qu'on nous dit non, il n'y a qu'à monter les digues, je dis que c'est stupide. De la même manière, on a deux lois qui sont venues beaucoup trop tard, la loi littorale pour protéger le littoral, mais les dégâts étaient déjà faits, notamment sur la Côte d'Azur, la loi montagne pour éviter le mitage, je dis laissons les gens sur le terrain, discuter ensemble, la loi fixe un principe, et après, mettons le préfet, les écolos, les agriculteurs, les élus, et qu'ils essayent de trouver une solution qu'on ne leur dise pas. Vous pouvez.
Jean-Louis Bianco,
de manière obligatoire, s'il doit faire.
Vous qui êtes député, vous savez que la loi ne sert pas de base de négociation. On a eu un préfet qui a longtemps crié ici la loi ne sert pas de base de négociation.
Pour moi, la loi sert de cadre à l'action. Et je crois que la modernité, c'est précisément le contraire de ce que fait le gouvernement. Ce n'est pas de tout recentraliser, ce n'est pas de tout remettre à l'État. C'est de laisser les gens sur le terrain se confronter ensemble. S'il le faut, l'État doit arbitrer. La loi doit fixer des principes pour qu'il y ait des règles d'égalité qui soient en vigueur partout sur le territoire, mais laissons respirer les gens, faisons confiance à l'intelligence des gens. On est au 21e siècle, on n'est pas au 19e siècle.
Il y a du monde dans la rue en ce moment, on parlait des retraites, des manifestations records, un durcissement à ce jour des conflits. Les jeunes sont dans la rue. On reproche à Ségolène Royal de les avoir incités à y être. Il y a une manipulation de cette jeunesse, de ces lycéens,
étudiants, collégiens. C'est une attaque une attaque vraiment, vraiment stupide. Ce pouvoir passe son temps à se défausser sur les autres. Si la France va mal, c'est la faute aux socialistes. Je rappelle qu'ils sont au pouvoir depuis 2002. C'est la faute aux 35 heures. Je rappelle que depuis 2002, ils auraient pu les supprimer si c'est vraiment la catastrophe qu'ils disent, les 35 heures. Là, c'est leur obstination qui fait que les gens sont dans la rue, y compris les jeunes, qui ont un malaise par rapport à ce qu'ils vont devenir, et disent si les jeunes sont dans la rue, c'est la faute à Ségolène Royal ou c'est la faute à je ne sais pas qui. Il faut que ce gouvernement accepte de regarder la réalité en face. Les jeunes sont parfaitement capables d'avoir un avis et de réfléchir à 15 ans, 16 ans ou 17 ans. D'ailleurs, c'est ce même pouvoir qui dit « Ouh là là, faut pas aller dans la rue, c'est très mal », qui leur dit « À 13 ans, on peut vous foutre en tôle si vous faites une connerie ». Le même pouvoir les trouve comme pénalement responsables, mais les trouve comme politiquement irresponsables. C'est un pouvoir stupide et aveugle, et je crains vraiment des dérapages dans les semaines qui viennent.
Vous-même, vous cautionnez cet appel, alors, avec toutes les précautions qu'il faut prendre, cet appel de Ségolène Royal à dire à la jeunesse, allez dehors.
Mais oui, il faut pas se cacher derrière son petit doigt. Elle n'a pas dit que ça, elle a dit... Faites attention, allez-y pacifiquement et évitez les... autant que vous le pouvez. Donc il faut avoir un service d'ordre, hein, ce que savent d'ailleurs les organisations lycéennes comme les organisations syndicales, qu'on limite le risque d'incidents d'où qu'ils viennent. Mais évidemment, on ne peut pas rester simplement au nom du fait qu'ils ont moins de 18 ans, pas pour tous. On n'a rien le droit de leur dire. Alors on aurait le droit de dire à tous les militants socialistes, par exemple, c'est important, allez-y dans les cortèges, s'ils ont plus de 18 ans, il y a des militants socialistes ou pas socialistes qui sont lycéens. Ah non, n'allez pas dans les cortèges, vous n'avez pas 18 ans. Si on pense que c'est important que les jeunes se mêlent à cette bataille, on doit leur dire, c'est de la responsabilité des politiques de leur dire.
C'est pas une manière un petit peu de gonfler les chiffres alors que le mouvement aurait tendance à s'essouffler en amenant des jeunes qui ont franchement, est-ce que, à 16 ans, pensent à la retraite, Jean-Luc Bianco?
Alors, ce qui est curieux, c'est qu'en effet, ils pensent à la retraite. Alors, ils n'y pensent pas tout seuls. Ils y pensent, mais attendez, non, mais ils pensent parce qu'ils voient qu'ils ont un avenir bouché. Qu'ils savent très bien qu'est-ce que c'est que le début de la vie pour eux. C'est d'abord le chômage. Ensuite, c'est des petits boulots ou des stages pas toujours payés et qui ne donnent pas droit à cotisation, ce qui ne leur permet pas de constituer des droits à la retraite. Alors, c'est évidemment pas leur première préoccupation. Mais moi, je suis frappé de voir que de plus en plus, les gens s'interrogent très tôt, non seulement sur qu'est-ce qu'on va faire demain, est-ce qu'on va avoir un travail, mais si, comment va être une retraite. Et quant aux chiffres, c'est une querelle stupide. Peu importe le nombre de chiffres, peu importe le nombre de gens. Prenons même, croyons même la police, qui d'ailleurs a une précision admirable, qui mérite le prix Nobel de mathématiques, 972 762, c'est tout juste, ils ne mettent pas une virgule. Le but étant à chaque fois de démontrer qu'il y a moins de monde que la fois d'avant. Le phénomène, il est politique, il n'est pas arithmétique. 4 fois de suite, des millions de personnes sont descendues dans la rue, avec en effet, depuis quelque temps, des femmes et des jeunes. Ça veut dire qu'il y a des millions de gens qui ne sont pas d'accord avec ce que le gouvernement veut faire, peu importe qu'ils soient... à la virgule près, ce que dit la police, ce que disent les syndicats.
Les socialistes semblent parfois un peu effrayés par la possibilité d'une radicalisation du mouvement social. Vous êtes président du Conseil général des Alpes-de-Haute-Provence. Un autre socialiste, président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, vient de prendre position.
Jean-Noël Guérini.
Il y a une grève du port assez sévère et assez longue. Et il vient de dire il faut reprendre le travail. En aucune manière ne se justifie la poursuite d'un mouvement de grève lourd de conséquences pour l'ensemble des activités, etc. Est-ce que cette position, par exemple, venant d'un socialiste, vous paraît responsable ou étonnante compte tenu du contexte social?
Elle ne me choque pas, compte tenu de ce qu'on sait sur le port de Marseille, qui est un lieu, vous le savez, de conflits extrêmement durs depuis très très longtemps, où, pour des tas de raisons, on n'a jamais réussi à trouver un accord solide pour permettre au port de résister dans la compétition mondiale, tout en gardant un certain nombre de droits qui permettraient d'avoir l'accord des syndicats. Donc moi, je comprends très bien que lui et d'autres socialistes, d'ailleurs, des Bouches-du-Rhône...
Patrick Mennucci aussi,
que j'ai côtoyé, et... Autant que je sache, les relations entre Patrick Mennucci et Jean-Noël Guérini ne sont pas toujours un lit de rose.
Ça s'est arrangé.
En tout cas, ils le disent l'un et l'autre au moins. Et je crois qu'ils ont raison de le dire. Mais je reviens à votre première question.
Quitte à se désolidariser de salariés en lutte à un moment...
Lorsqu'il y a un enjeu de ce genre-là, rappelez-vous, je crois que c'est Maurice Thorez qui disait « Il faut savoir arrêter une grève et il faut reconstruire le pays après la guerre ». Alors je ne compare pas le port de Marseille...
On parlait de Stalinien tout à l'heure, on y est.
Eh oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est normal qu'à un moment donné, un responsable politique dise « Attention, là ça ne va pas ». Mais ma crainte, ce n'est pas la radicalisation en soi. Ma crainte, c'est les incidents graves. On a vu déjà un lycéen, des policiers, exploités par le pouvoir pour retourner l'opinion. C'est ça ma crainte. Les incidents, le fait que ça dégénère. C'est pas que ça se radicalise, c'est que ça dégénère.
Mais alors on peut être socialiste et être contre les grévistes à tel endroit, selon le microcosme local, et être pour la grève quelques kilomètres de là.
C'est pas contre les grévistes à tel endroit, c'est de dire sur le port de Marseille, encore une fois, moi je comprends cette position, il y a un enjeu économique terrible, et donc de demander aux gens de reprendre le travail. Moi, je le comprends.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille avec Jean-Luc Bianco. Dernière question là-dessus, Jean-Luc Bianco. L'idée d'une primaire, qu'est-ce que je raconte, l'idée d'une primaire? Plutôt, c'est la société du Caire prônée par Martine Aubry. Vous avez été assez critique sur cette société du Caire parce que la compassion n'a plus cours au Parti Socialiste ou la solidarité s'effiloche?
J'ai été critique pour toute une série de raisons. Je comprends pas l'intérêt de parler de société du Caire. D'abord, je ne fais pas un nationalisme francophonie obsessionnel, mais allez donc dire à un jeune, sauf s'il est très bon en anglais, à un ouvrier, à un chômeur retraité...
Vous savez que les jeunes parlent beaucoup le franglais.
Oui, le Caire, je suis pas sûr que ce soit...
Et ne pensent pas tous à la retraite, quand même.
Je ne suis pas sûr que le Caire soit une notion évidente pour eux. Donc, ce que je veux dire, c'est que Caire, ça ne parle pas aux gens. Premier point. Deuxième point, même si je connais les explications philosophiques et sociologiques, care, ça veut dire en effet compassion, même si je sais que ça veut dire qu'on prenne soin de soi et prenne soin des autres. Bon. Or, la société française n'a pas besoin de compassion, elle a besoin de justice. Et donc, moi, j'ai proposé à Martine, je propose à mes camarades socialistes, prenons un mot, justice. Tout le monde comprend, care. Pas beaucoup de monde comprend.
Et la part du rêve, on gagne et on perd des élections aussi sur cette part-là.
Bien sûr, mais je pense qu'on ne peut pas faire rêver avec le care.
Michel Guéraud.
En préparant cette émission, je suis tombé sur une citation que vous aviez donnée à François. Vous parliez de sécurité. Vous disiez, sur certains points, nous devons être plus durs que Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est...
Ça vous a interpellé, ça.
Ah, ça m'a interpellé. Je me suis dit, voilà, c'est Ségolène avec ses chars dans les banlieues.
Non, elle n'était pas tout à fait sur les chars dans les banlieues. Elle est toujours dans l'encadrement militaire. Non, j'ai derrière ça, je crois que c'était dans cette interview, quelque chose de très précis en tête. Le pouvoir, Sarkozy, fait des descentes de police à grand renfort de spectacles et de caméras dans les banlieues. Ce qui provoque naturellement un sentiment de rejet par les habitants et pas seulement par les jeunes. Et en même temps, ce qui ne sert strictement à rien. Ils font que la police n'est plus respectée, ils sortent de là avec 10 grammes de cocaïne et un pistolet de la Deuxième Guerre mondiale. Or, on sait que dans les banlieues, dans les quartiers, il y a des kalachnikovs en vente libre. Donc j'ai dit, si on doit faire descendre la police, c'est pour essayer de trouver les kalachnikovs. Et c'est aussi par rapport au trafic de drogue. Je sais que c'est difficile, parce que c'est une économie parallèle qui permet à des tas de gens de vivre dans les cités. Mais si on ne prend pas ça à bras-le-corps, en espérant un jour, dans un siècle, retrouver les parrains ou les donneurs d'ordre, alors on ne coupera pas le trafic de drogue dans les cités. Donc c'est ça que je veux dire. L'armement, la présence d'armes de guerre, et la drogue, je pense que là-dessus, le gouvernement fait de la gesticulation, mais n'est pas efficace. Mais je suis pour autant... pour qu'on développe les moyens de prévention, qu'on permette aux maires et aux associations de travailler, qu'on rétablisse une police de proximité qui peut avoir un contact normal avec la population et pas un contact derrière des matraques ou des boucliers.
Les socialistes ont longtemps été attaqués sur une sorte de laxisme, dit la droite, en matière de sécurité. Là, vous constatez un virage, vous-même, vous le prenez peut-être ce virage sécuritaire ?
Je ne crois pas. Je crois que depuis en fait 1997... il y avait une réunion qui s'était faite à Villepinte, je crois, à l'lycée de Lionel Jospin, et Jean-Pierre Chevènement. Je trouve que la position que nous avons est une position juste, au sens où le fait de comprendre qu'il y a des clauses sociales, des causes géographiques, des causes familiales, ne veut pas dire en quoi que ce soit qu'on excuse et qu'un acte de délinquance reste un acte de délinquance. Simplement, on n'a pas toujours bien l'exprimer. Et on traîne parce qu'on a une compréhension, c'est fort d'avoir une compréhension humaine, sociologique, géographique. On traîne l'idée que dès lors qu'on dit qu'il y a des causes, alors c'est qu'on est indulgent. Moi, j'aime bien la formule qu'avait employée Tony Blair. C'est pas en odeur de sainteté dans la gauche française. Dur avec le crime, dur avec les causes du crime.
Citer Tony Blair, c'est...
Vous êtes un partisan de la synthèse. Vous parliez en matière de composition politique. Vous aviez sorti l'étendard arc-en-ciel qui allait du MoDem au...
C'est Julien Drey, à vrai dire, qui avait imaginé ça.
Vous étiez avec lui sur ce projet. Donc du MoDem au Parti communiste. Est-ce qu'à force de vouloir faire des grandes synthèses, est-ce qu'on peut à la fois dire du sang et des larmes, réenchanter le monde? Est-ce qu'on peut être ferme et doux? Est-ce qu'on peut...
Je pense qu'il faut être précis. J'ai essayé de l'être sur les questions de sécurité.
Alors vous situez
en disant,
vous précisément.
Attendez, en disant en quoi je pensais qu'il fallait faire, mais en quoi je pensais qu'il fallait avoir une attitude de prévention, une attitude de responsabilité sociale. Je crois que la question des alliances est aujourd'hui, et je le dis dans le livre, secondaire. La première question que nous avons, nous les forces de gauche, c'est les abstentionnistes. Très nombreux chez les ouvriers, très nombreux chez les jeunes. Comment on fait pour réintéresser ces gens à la politique et pour les faire venir voter? Avant de parler d'alliance avec le Front de Gauche ou avec le MoDem, parlons d'une alliance avec les abstentionnistes. Après, ce que je pense, c'est qu'il faut être ouvert à des compromis. Mais d'abord, soyons forts nous-mêmes, ayons les idées claires, convainquons un maximum d'abstentionnistes que ça vaut la peine, qu'il y a encore un espoir, qu'on peut encore changer les choses. Et après, regardons sans œillères. La priorité étant naturellement l'alliance à gauche. Mais je ne vois pas au nom de quoi on s'interdirait de parler sur une base programmatique avec des gens du MoDem, avec qui parfois on gouverne très correctement, comme François Rebsamen à Dijon, qui est à la fois des communistes et du MoDem. Et autant que je sache, ça marche et il a une ligne de gauche.
Alors des abstentionnistes, comment on fait pour les faire revenir? Ségolène Royal avait lancé ces sortes, en tout cas, de militants New Age à 10 euros. Vous dites qu'il faut continuer là-dessus, il faut ouvrir davantage encore.
Les primaires sont une forme d'ouverture, puisqu'on n'a pas besoin de prendre sa carte. On paye 1 euro, mais ce n'est pas pour adhérer au PS, c'est pour avoir une participation modeste à l'organisation des primaires et dire qu'on veut y participer, qu'on veut la victoire d'un candidat de la gauche. Je pense qu'il faut aussi que nos sections s'ouvrent. On a des militants formidables qui sont là, qui sont la jour et nuit dans les campagnes, qui font le boulot, qui font les affiches, qui tractent, mais ce n'est pas extrêmement attrayant pour beaucoup de gens, et notamment pour des jeunes. Donc, il faut qu'on ait des lieux de discussion beaucoup plus ouverts. Mais c'est surtout sur le fond. Il faut qu'on soit capable de dire aux jeunes, et pour l'instant, on n'y est pas, et je n'y suis pas non plus, qu'est-ce qu'on est capable de leur proposer? On tourne un peu autour d'une idée, avec notamment François Hollande, Ségolène Royal, l'idée d'un pacte entre la nation et les entreprises, en disant aux entreprises, on vous fait des baisses d'impôts, des baisses de charges, alors embauchez des jeunes en CDI. Bon, mais c'est quelque chose de ce genre-là. Si on est capable de proposer des mesures précises de ce genre-là et de montrer qu'on est capable de le faire, alors on réintéressera les jeunes. Et quant aux abstentionnistes, c'est leur dire qu'avec nous, il y aura des vrais changements, que ce ne sera pas une gestion accommodante du capitalisme et du libéralisme. C'est pour ça que je le dis de plus en plus maintenant. Je suis partisan de dire dès maintenant et de faire dès l'élection si nous gagnons, non pas la réglementation, non pas la fiscalisation, mais la suppression absolue des bonus, des stock options et des retraites chapeaux. Si nous disons ça, il y a des gens qui vont dire « Ah, si vraiment ils le disent et s'ils le font, ils sont sérieux, ce sera peut-être un peu différent d'aujourd'hui, où les privilégiés se gavent toujours plus et nous demandent toujours plus de sacrifices. »
Le Parti Socialiste, toujours un parti d'alternative ?
Il faut qu'il le soit. Il a des bases pour le faire, notamment une responsabilité terrible, qui est une immense attente, pas lui tout seul. Il faut, je le répète, qu'on rassemble d'abord la gauche. Mais je pense qu'il a des bases pour être une alternative et pas simplement un léger mieux.
Michel ?
On a vu un certain nombre de députés UMP, puis repris maintenant par le gouvernement, qui proposent de finalement revenir sur le fameux bouclier fiscal, mais alors au passage aussi de supprimer l'impôt sur la fortune. Ça vous paraît une bonne idée, ce package ?
Pour parler familièrement, puisque c'est le style de la maison, c'est un attrape-couillon. rendez-vous compte, ils veulent échanger entre guillemets 700 millions d'euros de bouclier fiscal contre 4 milliards d'euros d'impôts sur la fortune. Et c'est toujours à peu près les mêmes qui sont concernés. Le bouclier fiscal, il est fait pour les gens qui sont les gros contribuables à l'impôt sur la fortune. Donc en réalité, c'est une manière d'essayer de se dépêtrer avec ce bouclier fiscal qui est terriblement impopulaire. Et les députés UMP sont très enquiquinés. Il y en a une centaine qui l'ont dit là-dedans. Puis au passage, on habille la disparition éventuelle du bouclier fiscal par la disparition de l'ISF et on fait gagner 4 milliards d'euros aux gens les plus riches de France. C'est vraiment absolument scandaleux.
On avait lu quelque part que vous payiez vous-même l'impôt sur la fortune.
Je paye l'impôt sur la fortune et je ne suis pas pour l'abolition de l'impôt sur la fortune. Je trouve normal de le payer.
Et le bouclier fiscal vous concerne ?
Ah non, je ne suis pas à un niveau suffisant.
Michel Guéraud ?
D'accord. Le dernier point sur l'actualité, ce matin, des dépôts pétroliers débloqués par la force pour éviter une pénurie. Là, vous pensez que, parce que vous êtes un homme de responsabilité, que l'État a raison d'agir ainsi ?
Alors, question difficile. J'ai été frappé, je vais répondre à votre question, par le vocabulaire qui était employé, je dirais de manière, je pense, innocente, par un certain nombre de vos confrères sur une radio. On disait, il y a des dépôts qui ont été libérés et des dépôts qui ont été pris d'assaut. Et ce n'était pas un porte-parole de l'UMP qui disait ça. Alors, pris d'assaut par les grévistes, libérés par les forces de l'ordre. Bon. Ce que je crois, c'est que la vraie réponse, et ce n'est pas une manière d'évacuer votre question, c'est que le gouvernement veut bien accepter de négocier. Et à ce moment-là, il n'y aura pas de problème. Mais aujourd'hui, je considère, si nous étions au gouvernement, j'ose espérer qu'on ne se serait pas mis dans cette situation de folie d'avoir presque tout le pays contre nous. Mais je considère que le droit de bloquer les raffineries et de bloquer l'essence fait partie d'un élément du rapport de force extrêmement tangent, extrêmement sur ligne de crête, mais je comprends très bien que les salariés le fassent et moi je ne m'y oppose pas.
Dernier point, avant de venir à la région et puis au département, mercredi le Sénat semble déterminé à voter cette loi sur les retraites.
La majorité sénatoriale, c'est-à-dire la droite.
Donc le Sénat de fait, malgré le mouvement social, semble déterminé à y aller jusqu'au bout et à voter. qu'est-ce que vous dites aux gens qui sont dans la rue, au mouvement social? Certains syndicats disent qu'il faut poursuivre, d'autres disent qu'on ne peut pas. Ça relève maintenant ensuite du politique. Rendez-vous en 2012. Vous leur dites ça, rendez-vous en 2012, rentrez à la maison. Continuez à protester. Vous êtes dans la...
Je dis que sur les formes d'action, ce n'est pas à nous de le dire en premier. C'est aux syndicats. Et c'est difficile. Hein. Ils ont réussi à maintenir, ce qui est très rare, une unité syndicale. Ils ont naturellement des divergences dans une phase extrêmement difficile. Est-ce qu'il faut appeler ou pas la grève générale? Visiblement, même la CGT n'y est pas favorable, mais une partie de la base de la CGT y est. Donc là, vraiment, c'est très délicat pour les syndicats. Laissons-les essayer de trouver un accord là-dessus. Ce que je dis ensuite, une fois qu'ils se seront décidés majoritairement, notre devoir à nous sera derrière ce que diront la majorité des syndicats qui sont dans le mouvement, et pas de semer des complications. Et le rendez-vous en 2012, ça ne suffit pas. C'est pourquoi je suis surpris que le Parti Socialiste n'ait pas repris la proposition de Jean-Luc Mélenchon, d'Arnaud Montebourg, de Ségolène Royal, de dire on exige un référendum. C'est une étape intermédiaire entre on abandonne, on est battu en race campagne, attendons 2012, on a un objectif intermédiaire. Après tout, le pouvoir s'est targué d'avoir inscrit le droit de référendum d'initiative populaire dans la Constitution. Il n'a naturellement pas pris les textes d'application. Ben, disons, puisque vous dites que c'est important cette réforme des retraites, puisque vous dites qu'en fait les Français sont avec vous, faisons un référendum.
Enfin, le dernier référendum n'a pas été un très bon souvenir pour les socialistes et pour les partisans du oui en général, non ?
Le référendum n'est pas un bon souvenir quand on se trouve dans le camp du oui et que c'est le non qui gagne, oui. Mais le référendum est parfois, c'est pas à manier tout le temps, un outil utile en démocratie, et la victoire du non veut dire quelque chose au référendum sur l'Europe, et une victoire contre le projet du gouvernement, ou pour un projet socialiste, notamment un projet, voudrait aussi dire quelque chose.
Michel ?
Alors, on prend de la hauteur, et même beaucoup de hauteur, puisqu'on arrive à l'énergie des étoiles. Je voulais vous faire parler d'ITER. C'est un gros dossier pour la région, pour le département que vous présidez. On vient de voir, d'assister à la création d'un GIP, c'est un peu technique, mais enfin, vous n'étiez pas forcément favorable à cette solution au départ. Vous préfériez une opération d'intérêt national. Vous êtes déçu du choix, de la façon dont ça se met en place?
Non, c'est pas,
ça me paraît un petit aller.
C'est pas très important. De quoi il s'agit? Il ne s'agit pas d'ITER directement, sur lequel il y a le débat que vous savez, dont on pourra parler. Il s'agit de qu'est-ce qu'on fait? On
est en
État, région, département, ville, communauté de communes, des aménagements. Où est-ce qu'il faut faire un pont? Où est-ce qu'il faut faire une zone industrielle? Moi, j'ai l'esprit pratique. Je considère qu'il n'y a pas besoin de créer un machin, d'ailleurs, qui s'appelle GIP, Organisation internationale. Il n'y a qu'à se mettre autour d'une table et de regarder ensemble ce qui paraît opportun, et surtout de demander qui finance quoi. Parce que l'État, là, est dans une opération de défaut sur les autres. Bon, c'est ça qu'il suffit de faire. Alors, le GIP, il y a eu un consensus autour du GIP. J'ai dit, bon, on va pour un GIP.
Pas sur le président du GIP, le consensus.
Bon, le président du GIP doit commettre le représentant de la région, donc Christophe Castaner. Je trouve que cette guéguerre qui est menée contre lui par une partie de la droite est proprement ridicule.
Et tant pis pour le député Spagnou.
Écoutez, je ne vais pas dire du mal de Spagnou, il dit que le département est bien géré, qu'il ne voit pas pourquoi il n'y aurait plus de conseillers généraux UMP et qu'en plus on n'est pas sectaire.
Pour nos auditeurs, il y a deux députés dans le 04, vous-même, et voilà.
Mais voilà, mais je trouve que là-dessus, lui et Marie Joissin, qui semble être son porte-parole, ont tort. Il y a une majorité régionale qui essaye de gérer de la manière la plus ouverte possible, eh bien, que la majorité régionale désigne son candidat, en l'occurrence Christophe Castaner, qui est le vice-président maire de Fort-Calquier.
Sur le projet lui-même, ça tangue fort. Alors, il y a une explosion des coûts, et il y a aussi... Bon, Charpak, on honore sa mémoire avant de mourir, qui était un scientifique pourtant pro-nucléaire, a dit des choses très dures.
Pas sur... pro-nucléaire, mais bon. Cela dit, Charpak et d'autres ont dit des choses très dures. Malgré tout, moi, je demeure partisan d'ITER et je vais vous dire pourquoi. D'abord, je trouve qu'il y a une assimilation qui est faite très souvent, notamment par un certain nombre des membres d'Europe d'écologie ou des Verts, dans ce qui est le projet d'ITER. Le projet d'ITER, c'est d'essayer de reproduire sur Terre l'énergie des étoiles. C'est pas gagné. C'est en effet un pari.
C'est le moins que l'on puisse dire.
C'est en effet un pari. Mais si c'est gagné, alors on aura résolu le problème d'énergie de l'humanité. Et ce n'est pas le nucléaire au sens des centrales nucléaires, ou pire encore des bombes nucléaires. J'ai entendu quelqu'un parler d'une bombe thermonucléaire à Cadarache. Je crois qu'il faut quand même garder le sens de la mesure. Il n'y a pas les problèmes de risque d'une centrale nucléaire, il n'y a pas les problèmes de déchets d'une centrale nucléaire. C'est pour qu'on soit au clair. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça coûte très cher, en effet, et que les coûts dérapent. Ça coûte très cher.
Et que l'issue est incertaine.
L'issue est incertaine. Mais quand j'entends mes amis verts, je les entendais encore ce matin, me dire qu'il faut forcer la recherche sur l'énergie marémotrice et mettre de l'argent dedans, oui, on n'est pas sûr que ça marchera complètement. Ça fait 30 ans qu'on est sur le barrage de la Rance. Quand ils me disent qu'il faut faire des recherches sur tel ou tel type de nouveaux panneaux solaires, je dis oui, c'est la même chose. Il faut qu'on recherche et les énergies renouvelables et d'une certaine manière, le nucléaire au moins ne consomme pas du charbon, du gaz et du pétrole. Il faut poursuivre ça. C'est très cher. Les coûts vont sûrement augmenter, mais ça n'est que 6, 7, 8, 10% du budget de la recherche de la France. Et moi, je pense que sinon, on aurait... Alors, c'est une utilité sociale moins grande, mais on n'aurait jamais essayé d'avoir un homme sur la Lune, on n'aurait jamais essayé d'envoyer des gens dans l'espace. Les retombées, je me fais à moi-même l'objection, de l'espace ou de la Lune sont moins évidentes. Là, il s'agit de régler le problème de l'énergie pour l'humanité.
Vous êtes vraiment convaincu, c'est très, très lyrique, enfin, c'est presque une métaphysique de l'énergie. On a l'impression un peu que les élus de la région, du département, de façon très pragmatique, se disent « Oh là là, ça ne marchera peut-être pas ce truc, mais en tout cas, il y a de l'argent qui va arriver, on va faire fonctionner le bâtiment et allons-y. »
L'argument existe aussi. Moi, je le dis parce que je crois que c'est d'intérêt général. Et encore une fois, je comprends parfaitement qu'on puisse dire, je l'ai dit moi-même, c'est un pari, c'est pas sûr de gagner, ça coûte cher. L'argument est recevable. Après, il faut choisir. On le fait ou on le fait pas. Je pense qu'il faut le faire. Mais les retombées, c'est pas complètement négligeable. On a, à ma connaissance, depuis que ce projet a démarré, 580 millions d'euros de travaux qui ont été faits dans la région. Et dans mon département, 4 ou 5% des dépenses de bâtiments, de travaux publics ou autres. C'est une retombée qu'il faut avoir présent à l'esprit et qui est positive pour nous. Nous, département des Alpes-de-Haute-Provence, l'entreprise, la vie économique, y compris parce qu'on a l'école internationale. Je suis battu pour qu'on ait l'école internationale à Manos, celle qui va rassembler des chercheurs, enfin des enfants de chercheurs, de tous les pays, parce que ça va être formidable sur le plan humain, sur le plan de gens qui vont aimer le pays, qui vont s'y mettre. Tous ces gens-là, ils vivent là, ils aiment le pays, ils y travaillent, ils fonderont peut-être leur famille, leur vie, ils consomment. Donc on gagnera, si on parle en termes strictement financiers et budgétaires, beaucoup plus d'argent pour mon département que nous n'y avons mis, c'est-à-dire 10 millions d'euros.
Ça sera un des sujets de négociation au niveau national avec les Verts
Ce sera un sujet difficile avec les Verts. Vous savez qu'au niveau régional, il y a eu un compromis qui a été trouvé, non sans difficulté, mais qui ne posait pas de grandes difficultés, me semble-t-il, pour les socialistes. On avait déjà dit à l'État, on s'est engagé. Et d'ailleurs, c'est une des raisons qui nous a fait gagner l'engagement des collectivités locales, régions, départements, communautés de communes, par rapport à nos concurrents, le Japon d'abord et l'Espagne ensuite. Mais on n'ira pas plus loin. Et s'il y a des dérapages de coûts, c'est à vous, État, de vous en débrouiller. Donc, d'une certaine manière, on n'a fait que confirmer ça en disant aux Verts, on est bien d'accord avec vous, vous voudrez qu'on abandonne, nous on dit on tiendra l'engagement, mais on ne mettra pas un sou de plus. Par contre, au niveau national, on aura deux sujets avec les Verts Europe Écologie. On aura naturellement le nombre de sièges de députés. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, ils revendiquent ça, Danny Cohn-Bendit comme souvent le dit plus nettement et plus franchement que les autres, et ils ont bien le droit. La politique c'est aussi un rapport de force, c'est aussi un nombre de députés. Et deuxièmement le nucléaire, sur lequel là on aura des vraies difficultés, sur le nucléaire en général. On sait que c'est difficile, sur le reste je pense qu'on peut aller, à cause des progrès qu'on a fait, à cause des progrès qu'ils ont fait, vers un accord de gouvernement, aussi avec le Front de Gauche et les communistes. Il faut qu'on ait un accord de gouvernement, qu'on n'ait pas seulement un candidat à la présidentielle.
Alors on parle d'écologie, de grands équipements, ça nous amène à la LGV, les Alpes-de-Provence ne sont pas impactés. Mais enfin, vous avez donné votre nom à une circulaire, la circulaire Bianco sur les débats publics, donc on n'est pas si loin, ça concernait le TGV Méditerranée. Et maintenant, il y a la LGV, et la LGV, ça ne se passe pas très bien, on parle même d'un abandon pur et simple de ce projet. Un mot là-dessus, et puis c'est tous ces débats, toute cette lourdeur pour arriver peut-être à rien.
C'est vrai que j'ai été à l'origine de ces débats publics qui ont été ensuite...
Certains vous diront que vous avez créé un monstre. Hein. Ça ralentit énormément les travaux,
oui, mais
voire ça les fait disparaître.
Oui, mais lorsqu'il ralentit les travaux, c'est surtout l'incapacité des pouvoirs publics à se décider. C'est vrai que c'est difficile à pratiquer. C'est vrai que sur un débat public, on a souvent des gens qui sont contre et qui veulent être contre sans discuter des conditions. Mais n'empêche que sur la ligne à très haute tension, qui est aussi un grand sujet qui intéressait notre département, ou sur... Le début que j'ai fait, moi, sur le TGV, il y a eu des choses qui ont été apportées à la demande des associations et des riverains. Je crois que le projet a été meilleur et a progressé. Le problème qu'on a là sur la LGV, en fait, il n'est pas seulement de nature débat public. Il est qui met combien d'argent, comme d'habitude, entre l'État et les collectivités locales. L'État qui nous interdit à nous de nous occuper d'autre chose que nos compétences strictes et qui vient nous faire les poches quand il s'agit de lignes à LGV ou de routes nationales ou d'autoroutes. Et puis, par où on passe? Alors, moi, j'avais un point de vue totalement minoritaire, dont je pense qu'il n'était pas égoïstement d'intérêt départemental, c'était que plus on passait au nord, mieux c'était, parce qu'on aurait moins de zones urbaines et un équilibre. Je comprends en même temps que le maire de Toulon, le maire de Marseille, le maire de Nice, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône, ils aient d'autres problèmes. Mais la question, c'est l'incapacité collective à décider, et c'est le qui paye quoi. Le tracé était l'objet d'innombrables batailles, mais ce n'est pas le débat public qui a retardé, c'est l'incapacité à prendre une décision. Et ça, c'est une des leçons aussi que moi je tire du débat public. Il faut poser clairement la question, ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut dire clairement les conclusions qu'on s'en tire et qu'on suive ou qu'on ne suive pas les conclusions des experts, qu'on dise ce qu'on fait et pourquoi. Or, vous savez, l'histoire du troisième aéroport en région Île-de-France, moi je finis par même plus savoir ce qui a été décidé. Il y a eu d'innombrables débats publics, on ne sait plus très bien ce qu'on fait. Sur la LGV, c'est le même problème. On a trop tardé à décider et on n'est visiblement pas complètement d'accord.
Ça montre la limite un petit peu de ce genre d'exercice ?
Non, ce n'est pas le débat public, c'est la prise de décision politique qui pose problème dans ce cas.
Un autre des sujets qui vous énerve un petit peu, c'est la réforme des collectivités territoriales. Alors, bien entendu, là, beaucoup de choses vont changer. Il y a la RGPP également là-dedans. Moins de fonctionnaires. Votre zone, votre département, en tout cas, va être plutôt sinistré avec la ville d'Igne, qui elle-même souffre beaucoup. Qu'est-ce que vous dites à cela, vous ? C'était des économies nécessaires ou c'est...
C'est
quelque chose qui est vraiment mal fait.
C'est une pure stupidité au niveau local, comme je le disais tout à l'heure, au niveau national. On met en difficulté des territoires. C'est le cas de villes administratives comme Digne-les-Bains, mais d'une manière générale, tout le territoire de zones rurales et même de zones urbaines, parce que c'est EDF, c'est le pôle emploi, c'est les écoles, c'est les hôpitaux, c'est la poste. Tout ça pour des économies faibles, mais on diminue le service public et on diminue l'emploi. Donc c'est une politique de gribouille, c'est une politique qui est stupide, qui rapporte très peu en termes budgétaires et qui coûte beaucoup en termes de droits au service public et d'aménagement du territoire. Et il faudra qu'on revienne là-dessus. On peut très bien être plus efficace sans diminuer le nombre des fonctionnaires de manière aveugle. Il y a une manière très simple d'être plus efficace que je prône dans mon livre et je vous garantis que si j'ai du pouvoir comme président de la République, autrement ça se fera, c'est 10 fois moins de lois, de règlements, de décrets, de circulaires. On gagne des millions d'heures de travail et on laisse les gens localement se débrouiller, comme je le disais tout à l'heure.
Avec le même nombre de députés, 10 fois moins de lois ?
C'est pas une question de nombre de députés, c'est une question que le gouvernement, surtout celui-là d'ailleurs, pond une loi à peu près toutes les semaines. Chaque fois qu'il y a un drame ou un incident quelque part, il fait une loi pour porter atteinte aux droits de l'homme et renforcer la sécurité. Proportionnel au nombre de députés.
En tout cas, vous, Jean-Louis Bonco, vous faites de la résistance puisque vous êtes cité parmi les 5 députés de la région qui sont le moins présents à l'Assemblée nationale.
Je trouve là aussi... Je trouve là aussi ce type de calcul scandaleux. Pour être compté présent, il faut d'abord signer une feuille de présence, à quoi je me refuse. Il faut deuxièmement faire une intervention en commission. Vous dites bonjour, vous marquez un point. Au revoir, vous marquez 2 points. Je suis d'accord, 3 points. Je suis pas d'accord, 4 points. Et moi, je ne vais pas.
Ça, c'est la vie parlementaire.
Mais non, ça sert à rien d'aller à des réunions de ce genre-là. On a des discussions sur des bouts de conventions internationales. Je suis à la commission affaires étrangères qui n'ont aucun intérêt. À quoi ça sert de passer 2 heures en ayant toute la commission pour ça? Donc moi, le travail que je fais, c'est d'être présent dans les débats. Je pèse dans les débats de mon groupe sur les prises de position, sur les sujets qui sont ceux que je maîtrise, je pèse, et je pèse aussi parce que je discute avec mes électeurs. Le taux de présence, c'est vraiment totalement puéril.
Alors, Si j'étais président, vous dites aussi avec force, vous êtes contre le cumul des mandats, mais vous êtes aussi un grand élu, vous êtes président du CG, vous êtes député, vous siégez dans pas mal de commissions.
Je siège que dans ces deux-là, oui. Mais je cumule en effet les fonctions de député, parce que c'est général, mais je n'ai pas d'autre chose, je ne suis pas dans une communauté de communes, je ne suis pas dans un établissement public.
Alors, et vous dites aussi que vous êtes contre, vous proposez en tout cas qu'on ne puisse pas faire 3 mandats consécutifs, c'est dangereux, là, vous n'êtes pas loin.
J'y suis.
Hein. Et voilà.
Non, ce que je crois, c'est qu'il faut en effet un renouvellement, mais je n'ai pas non plus envie de me tirer une balle dans le pied tant que ce n'est pas une règle collective. Cela dit, si c'est une règle collective, je voterai pour et je l'appliquerai.
C'est peut-être un peu facile. Chacun se renvoie la balle en disant
mais attendez,
si tant que l'autre...
Non, mais attendez, personne, à part Ségolène Royal, qui est extraordinairement vertueuse, ne sait appliquer à elle-même ce qu'elle dit, c'est-à-dire de ne pas cumuler son mandat de député et son mandat de présidente de région. Mais... tous les autres, pour l'instant, continuent. Et je le comprends. Il faut qu'on ait une règle qui soit adoptée. Je crois qu'elle a été adoptée clairement par
les
militants.
Elle a eu tort de faire ça ?
Je crois qu'elle a eu raison, mais c'est un inconvénient pour elle. C'est qu'elle n'est plus présente au Parlement. Cela dit, elle est capable de se faire entendre en dehors. Donc, ce que je dis, c'est ayant une position claire au niveau du Parti Socialiste, on l'a à peu près. Hein, l'idée, c'est de dire que ça s'applique au prochain renouvellement, donc après les élections législatives de 2012, et je l'appliquerai.
D'accord. Revenons un petit peu à cette réforme des collectivités. La fin notamment de la taxe professionnelle, ça représente pour vous à peu près 40% des recettes du département, 27 millions d'euros. Qu'est-ce que vous allez faire ? Je crois que vous avez déposé un recours auprès du Premier ministre pour réclamer tout simplement d'avoir l'argent que vous dépensez, que vous êtes censé dépenser. Qu'est-ce qui vous reste à faire ?
Alors, nous avons fait recours, pas seulement nous, mais la grande majorité des départements de France, en disant au gouvernement qu'il applique ce qui est dans la loi et dans la Constitution, c'est-à-dire de nous compenser... financièrement, les charges qu'ils nous transfèrent sur les personnes âgées, sur l'action sociale, sur les routes, sur les handicapés. Je suis sûr que le Premier ministre va nous répondre non. On va aller devant le Conseil constitutionnel, je pense qu'on peut gagner. En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? On a des contraintes terribles pour faire le budget. On a eu ce matin le débat d'orientation budgétaire au Conseil général. On serre les dépenses de fonctionnement de manière terrible, mais on maintient nos efforts d'investissement, nos efforts de solidarité, nos efforts pour l'environnement. Comment est-ce qu'on fait ? En se réendettant un peu. nous avions désendetté le département, nous reprenons un peu de dette. Mais ça, on y arrivera sans doute en 2011, mais comme il n'y aura pas de compensation de la taxe professionnelle, des dotations de l'État gelées, des transferts non compensés, on va avoir l'année 2011, on a déjà commencé à réfléchir, on va discuter avec les élus, avec les citoyens, en disant, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on fait ?
C'est peut-être une manière aussi de vous recentrer exclusivement sur les fonctions qui sont les vôtres, celles du Conseil Général, en l'occurrence les collèges, non ?
Mais si on fait que les collèges, on laisse tomber les petites communes. Si on fait les collèges, on ne fait pas la politique d'environnement qui fait qu'on sera le premier département, je l'espère, pour tout ce qui est le développement de l'énergie solaire photovoltaïque. C'est un choix possible, les collèges, les routes et l'action sociale. Mais les petites communes auront bien du mal à s'en sortir si on n'est pas à côté d'elles.
Vous parlez du solaire, justement, il y a des difficultés. Vous aviez un projet avec Solaire Direct qui est pour l'instant suspendu, peut-être annulé.
Oui.
Il y a des grandes inquiétudes quand même à ce niveau-là. C'est pas si facile que ça. Vous parlez beaucoup dans votre livre en particulier de croissance sobre, de croissance verte. Dans le département, ça n'a pas l'air simple à mettre en place.
Si, je crois que être plus sobre dans nos consommations, développer le covoiturage, faire des circuits courts, favoriser la production locale, tout ça, on n'est pas les seuls, mais on le fait bien. Non, ce qui est difficile, c'est d'avoir une industrie française, parce que le gouvernement ou européen n'a strictement rien fait pour ça. Donc, il y a des gens qui veulent se développer. Brutalement, le gouvernement dit, il y a eu trop d'avantages, trop de spéculation, comme ils disent, sur des gens qui ont fait uniquement pour de l'argent des panneaux solaires pour récupérer l'argent quand ils vendent l'électricité produite à EDF. C'est vrai, mais ils l'arrêtent brutalement, sans prévenir, sans lisibilité. Du coup, des industriels qui avaient des projets, même des petits artisans chez moi, ou des agriculteurs qui voulaient faire des panneaux photovoltaïques sur leur hangar pour pouvoir avoir un bilan à peu près équilibré, tout le monde y renonce. Donc, ce qui est en cause, c'est la brutalité de cette décision.
Mais ça vaut encore le coup de parier sur ce genre d'alternative alors que ça dépend grandement de l'État ?
Non, l'État a eu un rôle incitatif et positif. Je rappelle d'ailleurs que c'est sous le gouvernement de Lionel Jospin, à l'initiative, je crois que c'est Cochet qui était ministre, ou Dominique Voynet, un député vert, avec Lionel Jospin, qui a mis en place ce tarif. Et donc je crois que c'est toujours possible. La région a également un programme Agir. Nous avons aussi un programme. Je crois que c'est toujours utile. Parce que maintenant, la dynamique est lancée. Maintenant, les citoyens veulent se comporter de manière responsable. Et même s'il n'y a pas de gros avantages fiscaux, je pense qu'ils continueront à faire des maisons, et puis c'est leur intérêt aussi en tant que consommateurs, à énergie positive, comme on dit, c'est-à-dire à dépenser beaucoup moins pour le chauffage, à avoir des bonnes isolations et avoir des panneaux solaires pour produire en tout cas leur eau chaude et une partie de leur chauffage. Je pense que le mouvement est irréversible parce que les citoyens sont conscients des enjeux du développement durable. Et en plus, en termes de coûts de fonctionnement de chauffage, même si c'est un peu plus un investissement, il s'y gagne.
Un mot peut-être sur Digne, le chef-lieu de votre département. Vous avez été maire de cette ville, elle semble être un petit peu en souffrance. Qu'est-ce que vous avez à dire aux maires qui protestent tout azimut ?
Je suis évidemment à ses côtés. Nous sommes tous aux côtés de Digne, et pas seulement parce que c'est Digne. Nous sommes aux côtés de la ville chef-lieu, qui est en train de se faire déshabiller. La dernière nouvelle, c'est l'annonce de la fermeture de la prison. Alors ça a l'air de rien. On a un petit établissement qui marche admirablement bien, sur lequel il y a un taux de réinsertion formidable. Il n'y a pas de suicide en prison. Il y a très peu d'absentéisme, ce qui marche bien.
Absentéisme en prison en même temps
c'est... Non, d'absentéisme des gardiens de prison. oui, il vaut mieux préciser. Oui, mais en général, c'est un métier tellement dur qu'il y a 20, 25, 30% d'absents. Là aussi, grande idée du gouvernement, on va tout centraliser. On va faire des prisons de 700. Vous voyez comme c'est humain, une prison de 700.
En même temps, le gouvernement s'emploie à les remplir, donc là, de ce côté-là, c'est ça.
Oui, mais attendez, des prisons de 700, vous savez financer comment ? Par des partenariats publics-privés. Vous savez ce que ça veut dire ? Par les amis du pouvoir, c'est-à-dire Bouygues et les autres qui vont sucrer sur les prisons qu'ils vont construire. Donc à la fois, on tue l'activité locale et on offre des marchés juteux aux amis du pouvoir.
Vous devriez être quand même heureux quand même qu'une prison ferme, non ? Progressiste de gauche, la phrase de Victor Hugo, on ferme une prison, on ouvre une école.
Il faudrait qu'on ne ferme pas aussi les écoles et qu'on ouvre plus d'écoles.
Dernière question.
En France, on est souvent en campagne électorale. Il y a des cantonales qui s'approchent. 16 cantons renouvelables sur 30. Dans le 04, vous êtes serein pour votre troisième mandat, le dernier, donc, si on a bien compris, en tant que président.
Nous sommes sereins. Bon, en rappelant, c'est pas de langue de bois qu'une élection. On sait que le soir de l'élection, ce que ça donne, il y a toujours des surprises. Parce que nous avons une équipe formidablement soudée et efficace. On va mettre du renouvellement là-dedans. Mais pour vous donner une idée, dans le département, en gros, la droite, c'est 53%. C'est aux élections présidentielles, aux élections législatives. Moi, je suis passé ric-rac. Dans le département, nous sommes 22 de gauche, communistes, socialistes et écologistes, 7 indépendants et 1 UMP. Bon, donc ça veut dire que cette gestion-là a été reconnue. Je pense qu'elle le sera encore. En plus, c'est une gestion qui n'est pas sectaire. On essaye de faire partager nos choix. J'essaye, moi, d'avoir un accord aussi avec les indépendants et aussi avec mon collègue UMP sur des choix en termes d'emploi, en termes d'environnement. Et en général, j'y arrive.
Comment vous expliquez, on vient de faire notre une sur Bienvenue en Sarkozy, on met l'accent sur le fait que PACA est un petit peu le laboratoire de Sarko. Comment ça se fait que plus on monte en altitude, plus l'UMP semble avoir du mal à respirer? Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est affaire de culture, de tradition, de manière d'être des gens. Vous savez, ce que sont les gens, ça compte aussi.
Dernière question, Jean-Luc Bianco. Vous avez été proche de François Mitterrand, on l'a dit, 9 ans, secrétaire général de l'Élysée. Ces jours-ci sort un livre, François Mitterrand et la guerre d'Algérie, de Benjamin Stora et François Mali, avec un nouveau visage, un de plus, j'allais dire, de François Mitterrand, celui qui, en 1980, a été le président de l'abolition de la peine de mort, a été aussi, lorsqu'il était ministre de la Justice, celui qui a donné un avis favorable à l'exécution de 45 condamnés à mort algériens au début de la guerre d'Algérie. Un mot sur ce personnage, François Mitterrand. On peut être à la fois celui qui a prôné l'abolition de la peine de mort et celui qui a refusé sa grâce à 45 condamnés.
Moi, je considère que c'est grave qu'il l'ait fait, et je ne doute pas, connaissant Benjamin Stora, qui est un historien sérieux, qu'il ait établi la vérité historique. Donc c'est quelque chose qui me gêne et qui me choque. Mais il ne faut pas non plus complètement déplacer le contexte historique. On est en 1954-55. Éclate la guerre d'Algérie. Je rappelle qu'on reproche beaucoup à Mitterrand d'avoir dit l'Algérie c'est la France, mais il était derrière un président du Conseil qui s'appelait Mendès France, qui avait dit la même chose. Et Mendès France peut le dire, on dit c'est bien, Mitterrand le dit, on dit c'est mal.
Enfin, Mendès France n'a dit que ça, Mitterrand en a fait d'autres.
Non, mais attendez, sur cette histoire de ligne politique en Algérie, la ligne était partagée à l'époque. Et vous ne pouvez pas demander à un pays qui se vit en état de guerre intérieure, pour la majorité, à part des gens qui soutenaient déjà l'indépendance de l'Algérie, je parle aussi des gens sur le territoire métropolitain, de dire on va abolir en 1954, au moment d'une guerre, la peine de mort. Je regrette cependant qu'il ne se soit pas battu pour éviter ces condamnations à mort.
Mais ça fait partie du personnage, François Mitterrand, d'être aussi de moins en moins clair et de plus en plus obscur.
Non, il n'est pas de moins en moins clair et de plus en plus obscur. Quand vous regardez les livres d'histoire, les vérités se font jour. Par exemple, sur ce terrain-là, et bien ça c'est connu depuis longtemps, quand il était ministre de la France d'Outre-mer, il a sorti de prison des dirigeants africains qui étaient en prison parce qu'ils étaient marxistes. Il a commencé à discuter avec eux. Et ça, il l'a fait contre toute la 4e République.
Jean-Luc Bianco, je vous remercie. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Bye.
La grande tchatche.